www.voixdelamérique.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du lundi 1er mars 2021. Eric Manela quitte à la présentation. Voici d'abord les titres. Au Tchad, le principal opposant Saleh Kevzabo se retire de la présidentielle. En RDC, 3 nouveaux cas d'Ebola ont été confirmés dans l'est du pays. L'ancien président français Nicolas Sarkozy condamné à 3 ans de prison, dont un ferme pour corruption. Et le négociateur américain pour l'Afghanistan rencontre le président afghan à Kaboul. Après le journal, ce sera l'économie et l'espoir. Le principal opposant au Tchad, Saleh Kevzabo, a retiré lundi sa candidature de la présidentielle du 11 avril en accusant le président Idriss Déby Itno, grand favori pour un sixième mandat, d'intimider ses rivaux pour l'usage de la force. Le point avec André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena.
Saleh Kevzabo, arrivé deuxième à la présidentielle de 2011, informe que cette attaque musculée des forces du troisième degré au domicile de Yahya Jallo Jirou impacte négativement sur le processus électoral en cours et donne une idée sur le climat d'insécurité qui engendra la campagne électorale pour les candidats qui vont affronter celui du parti au pouvoir. Il condamne cet acte odieux qui a fait couler le sang de Tchadiens et décide de se retirer de la course.
L'incursion des forces du troisième degré au domicile de M. Yahya Jallo impacte négativement sur le processus électoral en cours et donne une idée sur le climat d'insécurité qui entachera certainement la campagne électorale pour les candidats qui vont affronter Idriss Déby Itno. En conséquence, l'UNDR décide de se retirer du processus électoral pour ne pas avoir à servir de caution à la mascarade qui se prépare sur une grande échelle.
Pour l'Alliance Victoire, une coalition de l'opposition qui a présenté un candidat unique à cette élection, rien ne peut justifier une telle barbarie et exhorte tous les candidats de l'opposition démocratique déclarés à la présidentielle du 11 avril 2021 à se concerter en urgence pour examiner la situation en cours. À l'heure actuelle, la situation est toujours confuse et les autorités de N'Djamena évoque des mesures sécuritaires pour couper les réseaux de téléphonie mobile et Internet dans la ville de N'Djamena. André Kodumadingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Au Niger, l'opposant Amadou Hama a été emprisonné lundi à Niamey après 3 jours de garde à vue pour son rôle présumé dans les troubles ayant suivi la proclamation des résultats de la présidentielle. Le parti du député et opposant sénégalais Ousmane Sanko, visé par une plainte pour viol, a dénoncé lundi l'arrestation de près de 80 de ses partisans, estimant qu'ils sont les otages politiques du président Macky Sall. Le député de 46 ans nie ces accusations et crie au complot pour l'écarter de la prochaine présidentielle en 2024. Vendredi, l'Assemblée nationale a levé l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko, ouvrant la voie à une convocation par la justice à laquelle il a déjà indiqué qu'il ne répondrait pas. Au moins 11 personnes ont été tuées et 3 blessées pendant le week-end dans l'éboulement d'une mine d'or artisanale dans le nord du Burkina Faso, a annoncé lundi le ministère des Mines dans un communiqué. Le Ghana et la Côte d'Ivoire ont été lundi les premiers à lancer une campagne de vaccination contre le Covid-19 grâce au dispositif COVAX. À Accra, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a reçu une injection du vaccin AstraZeneca Oxford. À Abidjan, Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence ivoirienne, s'est fait vacciner dans le quartier populaire de Treichville. Des négociations sont en cours au Nigeria pour obtenir la libération de 317 adolescentes enlevées vendredi dans leur pensionnat situé dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du pays. Il s'agit de la 4e attaque d'école à moins de 3 mois dans cette région du Nigeria où des groupes criminels appelés bandits multiplient les vols de bétail à grande échelle et pratiquent les enlèvements contre rançon depuis plus de 10 ans. L'armée congolaise a annoncé lundi avoir tué 13 miliciens et perdu 3 soldats en 3 jours d'offensive contre un groupe armé actif en Ituri dans le nord-est de la RDC. Toujours en RDC, 3 nouveaux cas d'Ebola ont été confirmés dans l'est du pays, portant à 11 le nombre de cas depuis que les autorités ont déclaré une résurgence du virus le mois dernier. Le point avec Abdelrahman Dia.
Les nouveaux cas ont été détectés dans la zone sanitaire de Butembo, selon le ministre de la Santé provinciale du Nord Kivu, Eugène Zanzou Salita. 4 personnes sont décédées et 2 sont guéries parmi les 11 cas, a déclaré le ministre. La semaine dernière, M. Zanzou avait fustigé le fait que certaines familles refusent catégoriquement que leurs habitations soient désinfectées, tout comme des enterrements dignes et sécurisés. La 10e épidémie, déclarée le 1er août 2018 dans cette région, n'a été éradiquée que le 25 juin 2020 à cause de l'insécurité créée par des groupes armés et la résistance des populations aux mesures mises en place pour lutter contre la maladie. Avec plus de 2200 morts enregistrées, cette dernière épidémie de fièvre hémorragique est considérée comme la plus grave en République démocratique du Congo depuis son apparition en 1976.
Dans une province de l'ouest de la RDC, une maladie non identifiée a tué en février 15 personnes dont l'âge varie entre 60 et 80 ans. Le recours contre l'ex-président sud-africain Jacob Zuma pour outrage déposé par la commission chargée d'enquêter sur la corruption d'État lorsqu'il était au pouvoir sera examiné lors d'une audience virtuelle le 25 mars, a annoncé lundi la Cour constitutionnelle. Deux traducteurs éthiopiens qui collaboraient avec une équipe de l'agence France Presse et un journaliste du Financial Times ont été arrêtés samedi dans la région du Tigré, dans le Nord. Le vice-président du Zimbabwe, Kembo Mohadi, accusé de harcèlement sexuel, a annoncé lundi sa démission tout en réaffirmant son innocence. Le premier ministre libyen désigné Abdel Hamid Beiba a défendu lundi l'intégrité du processus de désignation du nouvel exécutif. C'est en réponse à des soupçons de corruption qui pèsent sur le dialogue interlibyen selon des experts de l'ONU.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, l'ancien président Nicolas Sarkozy a été condamné lundi à 3 ans de prison dont un an ferme pour corruption et trafic d'influence. Cette décision sans précédent sous la 5e République française a été accueillie avec stupéfaction et tristesse par sa famille politique de droite. Le point avec Mohamedou Oumfa.
Le tribunal correctionnel de Paris a estimé qu'un acte de corruption a été conclu entre Nicolas Sarkozy, son avocat Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert. Les deux co-accusés ont été condamnés à la même peine avec 5 ans d'interdiction professionnelle pour son avocat. Ils ont également été reconnus coupables de violation du secret professionnel. Cette affaire, dite des écoutes, remonte à 2014, dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Les juges découvrent que Nicolas Sarkozy utilise une ligne téléphonique secrète ouverte sous l'alias de Paul Bismuth pour communiquer avec son avocat. Le magistrat Gilbert Azibert transmet via l'avocat de Sarkozy des informations couvertes par le secret pour tenter d'influer sur un pouvoir en cassation formé par M. Sarkozy. En échange, ce dernier a accepté d'appuyer la candidature du magistrat pour un poste à Monaco. Malgré sa condamnation, Nicolas Sarkozy, âgé de 66 ans, n'ira pas en prison, aucun mandat de dépôt n'ayant été requis par le tribunal. Sarkozy a écouté impassible le prononcé de sa peine. Il n'a fait aucune déclaration à la sortie de la salle, mais Christian Jacob, le patron de la droite, a dénoncé une peine disproportionnée et un acharnement judiciaire.
En Afghanistan, l'émissaire américain Zalmay Khalilzad a rencontré ce lundi à Kaboul le président afghan Ashraf Ghani pour tenter de remettre sur les rails le processus de paix menacé par les violences et l'incertitude entourant le retrait des forces étrangères. Claire Morin-Gibourg.
Les deux hommes ont évoqué les étapes à venir du processus de paix et souligné les efforts supplémentaires à accomplir pour l'accélérer, selon une porte-parole de la présidence afghane. Il s'agit de la première visite de l'émissaire américain depuis qu'il a été confirmé dans ses fonctions par le président Joe Biden. Nommé par l'ex-président Donald Trump, M. Khalilzad a été l'architecte de l'accord entre Washington et les talibans en février 2020 à Doha et qui a permis l'ouverture de pourparlers entre les insurgés et le gouvernement afghan. Les négociations sont au point mort. L'administration Biden a ordonné un réexamen de l'accord de Doha qui conditionne le retrait des troupes américaines à des garanties sécuritaires de la part des talibans.
L'ONU a exhorté lundi les donateurs internationaux à assurer une aide de 3,85 milliards de dollars pour le Yémen afin d'empêcher la famine d'engloutir ce pays dévasté par la guerre et où l'enfance est désormais un enfer. Plus de 100 gouvernements et donateurs particuliers participent à une réunion virtuelle co-organisée par la Suède et la Suisse pour le Yémen. Les violences se sont intensifiées à Marib, dans le nord de ce pays très pauvre de la péninsule arabique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Echo avec John Lyndon.
La nouvelle chef de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a appelé lundi à débloquer les négociations sur les aides à la pêche au premier jour d'un mandat à la tête de l'Organisation mondiale du commerce. Nous avons vraiment le sentiment que la surpêche, la surcapacité et la pêche illégale sont des facteurs qui nuisent à la durabilité. C'est pourquoi il est important que nous achevions les négociations le plus rapidement possible, a-t-elle déclaré. La dette publique du Congo a atteint 100% du PIB en 2020, selon le Fonds monétaire international. Elle reste soutenable d'après l'institution, qui table sur une baisse en 2021 pour se situer autour des 87% du PIB. Dépendant du pétrole, qui représente plus de 80% des revenus, le Congo connaît une conjoncture difficile avec la dépréciation des cours sur le marché. La dette publique du Congo avait déjà atteint un niveau record de 117% du PIB. C'était en 2017.
Et sans transition, nous passons à la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le Ghana est le premier pays qualifié pour la finale de la CAN des moins de 20 ans qui se déroule en Mauritanie. Triple vainqueur de la compétition et opposé à la Gambie en demi-finale ce soir, les Black Starlets se sont imposés 1-0 avec l'unique réalisation de Précieuse Bois à la 34e minute. La seconde demi-finale met aux prises l'Ouganda et la Tunisie, deux pays qui participent à cette catégorie de la CAN pour la première fois de leur histoire. En République démocratique du Congo, on a joué dimanche pour le compte du championnat national. Sanga Balende a lourdement chuté, battu 4-1 par Maniema Union. L'AS Simba de Kolwezi a pris l'ascendant sur Renaissance du Congo, 3-1. Le duel au sommet entre Mazembe et Lupopo n'a accouché que d'un nul blanc, un match qui aura permis au Corbeau de préparer le duel de la Ligue des champions de la CAF face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns de Kinshasa. Le reportage de Valdo Simoyamba.
Trop physique, excès d'engagement, sorti d'un jeu décousu de part et d'autre, le derby louchois qui a opposé Mazembe à Lupopo n'a pas été à la hauteur des attentes. Un match sans but qui reflète la physionomie de la rencontre, estime Bertin Makou, l'entraîneur des Cheminots.
Il y avait de l'envie de part et d'autre de pouvoir faire la différence avec plein de détermination. Ça a fait que le match soit physique. Chacune des équipes n'a pas laissé beaucoup d'espace à l'autre à pouvoir exploiter. Sinon, ce n'est que normal. C'est un résultat qui reflète la manière dont les deux équipes ont joué.
Une physionomie du match qui a contraint l'arbitre à ne rien laisser de part et d'autre avec conséquence sur le jeu. C'est plein l'entraîneur adjoint du tout-puissant Gleber Mazembe, Isaac Asongo.
Dommage, on a vécu un arbitrage là qui a gâché la fête. La fête n'était pas au rendez-vous. Il y avait trop de brutalité. Ça, c'est pas du foot.
Ces nuls blancs ne font pas les affaires des Mazembe. Le club louchois reste sur deux matchs, toutes compétitions confondues, sans le moindre but. Sa ligne offensive inquiète, surtout à l'approche de son match contre Mamelodi Sundowns en Ligue des champions de la CAF. Duel à suivre, c'est 6 mars, Kinshasa, Val de Simoyamba, VOA Afrique.
En Espagne, la police catalane a annoncé avoir procédé à plusieurs arrestations après ses perquisitions au siège du FC Barcelone. Selon la radio Cadena Ser, l'ancien président du club, Josep Maria Bartomeu, fait partie des cibles. La Cadena Ser assure que le directeur général en place, Oscar Grau, et le directeur juridique Roman Gomez Ponti ont été interpellés et selon les médias espagnols, les perquisitions menées au siège du FC Barcelone sont liées à l'enquête sur le Barça Gate, une affaire qui a fait surface il y a un an. Le 17 février 2020, en effet, le FC Barcelone a démenti être à l'origine d'une campagne de calomnie visant des figures du club, sur les réseaux sociaux dans le but d'améliorer l'image de Joseph Maria Bartomeu, qui a démissionné le 27 octobre dernier. Cette opération policière intervient à 6 jours des élections pour la présidence du club prévue dimanche, où les socios, entendez supporters actionnaires, seront appelés à choisir entre Juan Laporta, Tony Fexa et Victor Font.
C'était les sports de Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voafrique.com. De retour avec vous, Eric Manirakiza. Maintenant, les dossiers du jour. Au Nigeria, les enlèvements contre le paiement de rançon sont devenus une activité courante dans le pays. Ce dimanche encore, des parents attendaient des nouvelles de la libération des centaines d'élèves enlevés dans des internats de Zangebe dans l'état de Zamfara. En quelques années, cette pratique a pris de l'importance. Le business des enlèvements au Nigeria avec Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja.
La multiplication récente des attaques a suscité des inquiétudes quant à la montée de la violence de la part des gangs et groupes armés qui visent désormais des écoles. Ces attaques et enlèvements contre le versement des rançons sont surtout présents dans les États du Nord. Récemment, 42 personnes, dont 27 élèves, ont été enlevées par un gang armé qui a pris d'assaut l'école secondaire gouvernementale dans le district de Gagara de l'État. Les élèves enlevés et le personnel ont retrouvé leur liberté et ont été reçus par le gouverneur de l'État de Nadja après avoir passé au moins entre 9 à 10 jours en captivité. On parle de plusieurs centaines le nombre de victimes d'attaques ou d'enlèvements dans cette partie du pays. Hawa Abdul Salam est avocate. Elle a été déjà enlevée et raconte son expérience entre les mains de ses ravisseurs.
C'était une terrible expérience ce jour-là. On ne s'attendait pas à une telle situation. Nous revenions d'une cérémonie de mariage de la cousine de notre sœur pour rejoindre Mina dans un minibus. En route, juste au niveau d'un village appelé Tungu, nous avions vu des hommes armés inconnus. Ils ont commencé à tirer vers nous et finalement, ils ont obligé notre chauffeur à arrêter le véhicule.
Dans plusieurs autres États du Nord, les autorités locales sont conscientes de la gravité de la situation. Le président Buhari a remplacé ses chefs militaires de longue date ces mois-ci dans un contexte d'aggravation de la violence au Nigeria. Ahmed Ibrahim Matani, secrétaire général du gouvernorat de l'État de Nadja, l'un des États ayant de vastes étendues de territoire où les criminels profitent des grandes forêts pour mener leurs activités.
Nous avons des problèmes de sécurité dans notre État et cela s'explique notamment par le fait que notre État représente 10% du territoire national. Une grande partie des endroits de notre territoire est constituée de forêts. Donc, les criminels prennent ces forêts comme leur sanctuaire et opèrent à partir de là.
Au sein de la population, on se pose beaucoup de questions sur l'incapacité du gouvernement du président Buhari, un ancien militaire, à endiguer le phénomène des enlèvements. La violence et l'insécurité ont aggravé les défis économiques auxquels sont confrontés les citoyens du premier pays exportateur du pétrole d'Afrique, qui peinent à faire face à une baisse des revenus due à une chute des prix du brut en plus de l'effet de la pandémie COVID-19. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
On l'évoquait en première partie de ce journal, l'ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné ce lundi à 3 ans de prison, dont un ferme, pour corruption et trafic d'influence. Président de 2007 à 2012, Monsieur Sarkozy, âgé de 66 ans, n'ira cependant pas en prison, aucun mandat de dépôt n'ayant été requis par le tribunal. Cette condamnation intervient alors que Monsieur Sarkozy doit faire face à nouveau à des juges dès le 17 mars dans l'affaire Pygmalion sur les frais de sa campagne présidentielle de 2012. John Lindon a joint à Paris Abdelaziz Mondé, journaliste et consultant en relations internationales.
Oui, comme on peut l'imaginer, c'est un vrai séisme médiatique. La décision était attendue. Déjà dès les premières heures de la matinée, tous les médias, les chaînes d'information en continu ont été sur le qui-vive. Toute la presse d'information générale, la presse politique, tout le landerneau politique attendait cette décision parce que, comme on l'imaginait, l'enjeu était de savoir si, oui ou non, un deuxième président de la République allait être condamné à de la prison ferme ou à un sursis après la condamnation de Jacques Chirac.
Il est condamné pour corruption et trafic d'influence. Pour ceux de nos auditeurs qui n'ont pas suivi ce feuilleton, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus?
Oui, il s'agit d'une affaire qui est rocambolesque, puisque c'est dans le cadre d'une enquête qui impliquait Nicolas Sarkozy dans la question du financement libyen de sa campagne de 2007, que les enquêteurs ont découvert une ligne téléphonique secrète qui était utilisée par Nicolas Sarkozy pour communiquer avec son avocat Thierry Herzog. Et dans les investigations donc de la police, on a découvert que Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog discutaient d'une possibilité pour Nicolas Sarkozy d'accorder un avantage sous la forme d'un poste à un haut magistrat, Gilbert Azibert, qui était juge à la Cour de cassation, qui sollicitait un poste à Monaco. Et donc Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog discutant non de cela, les juges qui enquêtaient, les enquêteurs du parquet national financier qui enquêtait sur une affaire concernant le financement libyen, une enquête dans laquelle Nicolas Sarkozy est mis en examen, eh bien, ont découvert cette ligne-là. Et donc, cette affaire qui concerne des faits de corruption et de trafic d'influence, dont dite l'affaire Paul Bismuth, est une des 10 affaires dans lesquelles Nicolas Sarkozy a été impliqué ces 10 dernières années, pour laquelle, in fine, il a été donc condamné ce matin, enfin ce midi à Paris, donc entre 13h et 14h, au moment où le tribunal a communiqué sa décision, où il a été condamné donc à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis et une ferme.
On note cependant qu'aucun mandat de dépôt n'a été émis à son encontre. Ça veut dire qu'il n'ira pas en prison?
Oui, ça veut dire que dans l'immédiat, il n'ira pas en prison. Le premier appel qui a été interjeté a été celui de son avocat Thierry Herzog, qui a été lourdement condamné, qui en plus de la peine de sursis et de la peine ferme, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les 3 années de sursis, dont 2 de sursis et 1 année ferme, a été condamné à 5 ans d'interdiction de la pratique de la profession d'avocat pour un ancien chef d'État. Je vois, pour le rappeler difficilement, comment Nicolas Sarkozy va se déployer de façon aussi énergique, de façon aussi sereine qu'il en avait l'habitude.
Abdelaziz Moundé, journaliste et consultant en relations internationales, joint à Paris.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Lors de la conférence d'action politique des conservateurs en Floride dimanche, Donald Trump a critiqué la politique de son successeur Joe Biden et a réaffirmé le leadership du Parti républicain. Dans son premier discours au public depuis qu'il a quitté ses fonctions, l'ancien président a laissé entendre qu'il pourrait se présenter à nouveau en 2024. Un reportage de Patsy Widakuswara, correspondante de VOA à la Maison-Blanche, relaté par Nathalie Barge.
Lors de la conférence d'action politique des conservateurs en Floride dimanche, les participants se sont empressés de témoigner de leur soutien à Donald Trump. Henrietta Hamay, militante pro-Trump.
Je suis ici pour soutenir le président Trump jusqu'au bout. Il est le meilleur président que je connaisse.
L'événement annuel, une plateforme pour mettre en évidence les idées conservatrices, était consacré cette année à Donald Trump, qui n'a pas manqué de critiquer son successeur, le président Joe Biden.
Joe Biden a connu le premier mois le plus désastreux de tous les présidents de l'histoire moderne, c'est vrai. L'administration Biden a déjà prouvé qu'elle était anti-emploi, anti-famille, anti-frontières, anti-énergie, anti-femme et anti-science.
Joe Biden a passé le dimanche à l'église avec sa famille dans le Delaware. La Maison-Blanche n'a pas voulu s'étendre sur ce rassemblement qui a ramené Donald Trump sur la scène politique. James Saki, attaché de presse de la Maison-Blanche.
Nous n'allons pas passer trop de temps ici à nous concentrer ou à parler du président Trump, l'ancien président Trump.
Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait se présenter à nouveau en 2024 et a clairement indiqué qu'il a l'intention de garder le contrôle sur le parti, bien qu'il soit critiqué par certains républicains pour les émeutes de ses partisans au Capitole le 6 janvier.
Il n'arrêtait pas de dire que j'allais lancer un nouveau parti. Nous avons le Parti républicain. Il va s'unir et être plus fort que jamais. Je ne lance pas un nouveau parti.
Trump a blâmé certains législateurs républicains qu'il juge déloyaux, dont ceux qui ont voté pour le destituer. Il a continué à affirmer qu'il avait remporté les élections. Une telle position risque d'aggraver les divisions au sein du parti et d'éloigner les modérés, selon Olivia Troy, directrice du projet républicain de responsabilité.
Ils cherchent à trouver des candidats plus représentatifs afin de travailler pour ce qui est bon pour l'Amérique, n'est-ce pas? Faire ce qu'il faut pour le pays, travailler avec les démocrates, coopérer au lieu de cette division et de cette haine toxique qui s'est installée.
Donald Trump a été acquitté lors du second procès au Sénat intenté par les démocrates, mais n'en reste pas moins dans le collimateur des procureurs de Manhattan qui ont saisi des dossiers fiscaux de l'ancien président après une bataille judiciaire de 18 mois.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique, Lionel Lunani-Lagaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnon et Joselle Morissin. À la présentation, c'était Eric Manirakiza. Merci d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet veroafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le département d'État et les centres de contrôle des maladies recommandent aux citoyens américains d'envisager de reporter tous les voyages non essentiels à l'étranger. Si le voyage ne peut être reporté, tous les passagers âgés de 2 ans et plus, y compris les citoyens américains et les résidents permanents qui empruntent un vol vers les États-Unis, doivent présenter la preuve d'un test COVID-19 négatif effectué dans les 3 jours précédant le départ ou une preuve de rétablissement du COVID-19 au cours des 90 derniers jours. La preuve peut consister en un récent test viral positif et une lettre d'un fournisseur de soins de santé ou d'un agent de santé publique indiquant que le passager est autorisé à voyager. Lors d'une séance d'information spéciale du département d'État, le secrétaire d'État adjoint par intérim, Ian Brownlee, du Bureau des affaires consulaires, a annoncé que tous les voyageurs se rendant à l'étranger doivent s'attendre à voir leur plan sérieusement perturbé. Si un citoyen américain ne peut pas facilement accéder à un test COVID-19 ou à des tests positifs au départ, son retour aux États-Unis pourrait être reporté de plusieurs semaines. Pendant ce temps, il sera responsable de ses frais d'hébergement et médicaux. En conséquence, Brownlee a conseillé à tous les citoyens américains de reconsidérer tout projet de voyage à l'étranger. Si un voyage ne peut pas être reporté, les voyageurs sont encouragés à prévoir un plan B en cas de séjour prolongé imprévu à l'étranger. Marty Citron, directeur de la division des migrations mondiales et de la quarantaine des CDC, a expliqué que ces mesures ont été introduites pour lutter contre les dangers croissants du virus et de ses variants. L'émergence des nouveaux variants a également mis en évidence un nouveau défi dans cette course contre l'infection par rapport à la vaccination. M. Satron a déclaré que les habitants des États-Unis doivent reporter leurs déplacements discrétionnaires jusqu'à ce que le virus puisse être contrôlé ou que les stratégies de vaccination soient accélérées. Le département d'État s'est engagé à maintenir les efforts de l'administration pour lutter contre la pandémie au moyen de mesures prudentes et axées sur la science, a déclaré M. Brownlee. De nombreux pays mettent à jour leurs exigences en matière de voyage compte tenu de la nature évolutive de la pandémie. Et aujourd'hui, les États-Unis se joignent à eux pour nous protéger tous.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.